divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée et présentée par Fabrice Millon et par Alexis Lacroix. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. La date, évidemment, n'est pas choisie au hasard. Nous sommes ce matin le 6 octobre, à la veille de la commémoration d'une tragédie qui a sidéré le monde, traumatisé profondément, épouvanté profondément l'État d'Israël, à savoir les attaques commises par le Hamas le 7 octobre. Et nous recevons pour en parler le politologue et essayiste Gilles Kepel. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci d'être à divers aspects de la pensée contemporaine. Merci d'être avec nous ce matin à France Culture pour cette émission un petit peu exceptionnelle. Dans le bouleversement du monde, l'après 7 octobre qui paraît aux éditions Plon ces jours-ci, vous l'écrivez, j'allais dire avec la plus grande sincérité, je vous lis, parce que j'ai consacré 4 décennies de ma vie à travailler comme chercheur, mais aussi comme professeur de sciences politiques sur le monde arabe et musulman contemporain, j'ai été soucieux de livrer un récit cohésif, aussi dépassionné que possible. Alors, question très simple, les images du 7 octobre, de cette journée terrible, des enfants assassinés, des kibboutzim anéantis, des otages innombrables et des effluves de calcination, permettent-elles encore aujourd'hui de livrer, un an après, ce récit dépassionné, Gilles Kepel?
Oui, plus que jamais, puisque ce qui s'est passé depuis lors a été un enchaînement de causes et de conséquences qui, dans les jours précédant l'anniversaire du 7 octobre, donc, ont vu l'armée israélienne attaquer le Liban, liquider le chef du Hezbollah, qui était en fonction depuis 32 ans, Hassan Nasrallah, ont vu déjà 2 salves de missiles tirés par l'Iran sur Israël, sans présager du futur. Donc on est vraiment dans un système de bouleversement du monde. Je crois que là, ce que j'ai appelé dans ce livre la razzia pogromiste, oui, je vais revenir dessus, du 7 octobre, est un symptôme d'un bouleversement global des fondements moraux de l'ordre du monde.
De l'ordre du monde depuis 1945.
Exactement.
D'ailleurs, vous l'écrivez, l'infliction, le fait d'infliger à Israël le premier pogrom depuis les exécutions nazies, cela constitue pour beaucoup d'analystes politiques une césure, une rupture anthropologique. Vous reprenez à votre compte ce concept de rupture anthropologique?
Ça va même encore plus loin, puisque c'est le retournement de la notion de génocide. Israël a été créé par l'ONU en 1947, d'une certaine manière, comme une compensation de la communauté internationale qui se voulait morale, après l'extermination, après le génocide nazi, la Shoah, la catastrophe. Et aujourd'hui, donc le discours de ce qu'on appelle le Sud global, le mouvement décolonial ou woke, consiste à dire que le véritable génocide, c'est désormais celui qu'a commis l'armée israélienne à Gaza. On est aujourd'hui entre 40 et 50 000 morts, probablement, et que, au fond, le génocide de la Seconde Guerre mondiale, c'est une vieille histoire, ça n'a concerné que des Blancs entre eux, et puis on ne sait pas trop si ça s'est produit, puisque le complotisme et le conspirationnisme ont envahi les réseaux sociaux, et que le vrai crime contre l'humanité, c'est la colonisation, dont est coupable le Nord et dont est la victime le Sud global.
Alors justement, c'est très intéressant, nous sommes le 6 octobre, à la veille des commémorations de cette razzia pogromiste, comme vous l'appelez dans Le bouleversement du monde, votre livre événement aux éditions Plon. Gilles Kepel, vous êtes évidemment ce grand spécialiste bien connu de nos auditrices, de nos auditeurs du monde musulman, vous êtes un arabisant, hein, bien sûr, c'est important de le rappeler également, professeur émérite des universités. Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui, paradoxalement, un risque d'occultation de ce qui a été accompli, de ce qui a été commis par, comment dire, les activistes du Hamas en cette matinée sanglante?
Oui, puisque en fait, quand sur les campus, dans mon ancienne alma mater de Sciences Po ou de Normale Sup, on dit dans le globish qui sert à dissimuler la vacuité de la pensée « All eyes on Gaza », ça veut dire qu'on ne regarde pas ce qui est autour. Et bien sûr, il faut regarder Gaza, il faut comprendre pourquoi il y a eu tous ces morts, sans doute le déplorer, et bien sûr, c'est à intégrer, très, très important, on ne peut pas faire l'impasse sur Gaza. Mais on ne peut pas non plus oublier que avant Gaza, il y a eu la razzia pogromiste. Et justement, moi, mon travail, vous voyez, je trouve que c'est ça. Pourquoi je dis razzia pogromiste? Razzia, ça vient du mot arabe razwa, en français, qui désigne les attaques fulgurantes des tribus les unes contre les autres dans l'histoire arabe ancienne, mais également la grande razzia du prophète contre l'oasis juive de Khaybar en 628. C'est aussi le terme qu'emploie Ben Laden, la double razzia bénie, en arabe el-razwaten el-mubarakaten, contre New York et Washington le 11 septembre. Et donc on comprend la logique de ce qu'il a perpétré. Et pogromiste, pourquoi? Parce que ça, c'est la façon dont c'est ressenti par les victimes.
Vous voyez, à la lumière d'une mémoire juive, on pourrait dire atavique, entre guillemets, évidemment, cela a réveillé le souvenir des pogroms, notamment commis par la Russie tsariste. Alors, nous sommes évidemment dans une émission aussi de réflexion géopolitique. Vous signez Le bouleversement du monde, c'est un livre passionnant et d'ailleurs très équilibré sur le monde d'après le 7 octobre. Demain, il y aura évidemment beaucoup d'évocations de cette tragédie. Et vous vous interrogez plus largement sur la signification de cet événement, de la riposte d'Israël, d'un risque de régionalisation du conflit, à l'intérieur d'un cadre conceptuel plus large, Gilles Kepel, vous forgez des concepts, que vous appelez la mondialisation brutale. Est-ce que la mondialisation brutale, c'est l'inverse de la mondialisation heureuse, chère à Alain Minc, mais aussi à Francis Fukuyama?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Fukuyama est toujours là et nous explique toujours que la fin de l'histoire est en train d'arriver et que dans le monde, il y aura des démocrates et des républicains. Mais je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ça marche encore vraiment bien aux États-Unis. Vous voyez que l'un des aspects étonnants de ce bouleversement, c'est que précisément, c'est parce que il y a plus personne dans l'avion, si j'ose dire, à la Maison Blanche, et que il y a cette espèce de suspension du temps qui advient chaque 4 ans lorsque on ne sait pas qui va être président des États-Unis, sauf quand celui qui a le poste est sûr d'être réélu. Ça permet au système de turbuler. Et Benjamin Netanyahu a mis à profit cette espèce de vacuité pour il n'a, si j'ose utiliser le terme de psychanalyse, il n'a plus de surmoi américain. Il fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui lui permet donc de mener l'offensive sur le Hezbollah, etc., en ayant payé de mots Biden, qui disait qu'il négociait. Et ce qui est le plus frappant, c'est que cette élection américaine, d'habitude, le démocrate et le républicain étaient dans la surenchère à qui était le plus favorable à Israël pour l'électorat juif américain. Cette fois-ci, avec les grands électeurs et dans l'état bascule du Michigan, où il y a des centaines de milliers d'Arabes américains, dont certains Libanais qui écoutent ce que dit le Hezbollah, ce qui serait très paradoxal, ce serait que le Hezbollah, au moment où Nasrallah a été éliminé par les Israéliens, puisse être un facteur clé dans l'élection du président américain au Michigan, ce qui serait le paradoxe et le bouleversement de l'histoire, montrant finalement une sorte de déréliction des institutions construites en 1945.
Alors Gilles Kepel, c'est passionnant, nous commentons l'actualité. L'actualité, c'est évidemment les 1 an de la tragédie du 7 octobre, c'est plus largement la situation du Moyen-Orient. Vous avez beaucoup réfléchi depuis de nombreuses années sur Al-Sharq, notamment dans Passion arabe, qui était un de vos livres événements consécutifs aux printemps arabes. Les printemps arabes, ils ont marqué un moment où on avait justement l'impression qu'on allait vers une progressive démocratisation de beaucoup de régimes arabes et plus largement des rapprochements avec l'Occident libéral, américano-européen. Est-ce que on peut dire que les accords d'Abraham, qui sont un petit peu, j'allais dire, la pointe avancée de ces processus, ont tenu malgré tout depuis le 7 octobre 2023, Gilles Kepel?
Alors, les printemps arabes, entre guillemets, puisque la plupart sont produits l'hiver, en fait, c'était un peu, justement, une manière fukuyamesque de voir les choses. L'idée était, les colonels Salazar et Franco sont tombés, les régimes communistes sont tombés et maintenant les mouvements islamistes et les dictatures arabes vont tomber ensemble parce que les uns se nourrissent les autres et on va avoir l'avènement de la démocratie. Ça n'a duré un petit peu qu'en Tunisie, maintenant c'est fini là aussi, et ça a permis de trouver une espèce de principe de réalité terrible dans ces pays, puisque regardez par exemple dans quel état est la Syrie aujourd'hui, qui avait suscité tant d'espoir, dans quel état est le Yémen par exemple, qui de suite des printemps arabes est devenu la plateforme des Houthis, qui bombarde la mer Rouge, qui mieux mieux, et qui d'ailleurs interrompt la route de la soie chinoise, qui fait que les Chinois sont fâchés tout rouge contre, si j'ose dire, contre les Iraniens. Et on voit bien effectivement qu'il y a cette transformation très profonde des paradigmes, par-delà ce qui se passe au Moyen-Orient lui-même.
Alors vous êtes politologue, mais vous n'êtes pas que politologue, Gilles Kepel. Ceux qui vous lisent le savent, vous êtes aussi un écrivain, peut-être même un philosophe de l'histoire. Vous réfléchissez sur le devenir de nos sociétés. Est-ce qu'on peut dire, comme Sigmund Freud en son temps, que la civilisation, la raison civilisatrice, c'est une très fine pellicule et qui est fragile et qui peut être effacée très facilement?
Je crois surtout qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'imposer face au corpus de la raison, qu'on pourrait peut-être appeler, si vous voulez, occidentale ou en tout cas européenne, un autre mode de pensée qui était déjà présent dans le mouvement MeToo, des constructeurs wokistes aujourd'hui, et qui considère que, au fond, quelqu'un comme moi est un homme blanc en voie de déréliction, et que ce qu'il lit n'a plus de valeur. Regardez, j'ai été mis à la porte de l'université un an avant terme pour non-wokisme, et les études arabes ont été fermées à l'école normale supérieure pour être remplacées par un programme sud-global.
C'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir ce matin sur France Culture, Gilles Kepel, pour Le bouleversement du monde, votre livre événement sur le 7 octobre aux éditions Plon. Nous sommes en lien avec notre ami Fabrice Millon, qui est GSAI du Grand Orient de France, mais il était en visite dans des ateliers en province. Fabrice, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour Gilles Kepel.
Et donc c'est à vous, cher Fabrice, je crois que vous vouliez poser une question à Gilles Kepel.
J'avais effectivement une question à poser à Gilles Kepel en lien avec l'actualité brûlante. Comme chacun de nous, les membres du Grand Orient de France sont à la recherche de la concorde et de la paix. Quel est, Gilles Kepel, selon vous, l'avenir du Proche-Orient à moyen ou à long terme quand la communauté internationale pèse désormais si peu ?
Je crois que ça va dépendre de l'aboutissement des opérations militaires que pour l'instant on ne voit pas encore complètement. Si Netanyahou remporte un succès militaire tactique, peut-être aura-t-il la possibilité d'élargir sa majorité à un parti Likoud plus vaste et de ne pas dépendre entièrement, comme c'est tout le cas aujourd'hui, des suprémacistes qui ont 18
sièges à la Knesset. On peut les nommer, c'est Bezalel, Smotrich d'un côté et Itamar Ben-Gvir de l'autre. Voilà.
Qui vont se trouver peut-être dans la situation un peu des pieds noirs de l'Algérie française, d'une certaine manière. Alors, à partir de là, si l'Iran évolue, comme j'ai l'impression qu'il va le faire, puisque toutes ces morts en Iran sont très suspectes. Et si on a un peu une évolution post-URSS en Iran, comparable à l'URSS de 1989, à partir de ce moment-là, on aura un Moyen-Orient transformé. Et pour reprendre sur Alexis Lacroix tout à l'heure, sur sa question sur les accords d'Abraham, je pense que les accords d'Abraham ont échoué parce qu'ils occultaient complètement l'État palestinien. À partir du moment où on aurait un Moyen-Orient inclusif dans lequel l'État palestinien est reconnu, on peut aller dans une perspective de paix. Ça n'est pas demain matin, je pense, mais en tout cas, je ne vois guère comment on pourrait trouver d'autres perspectives.
Alors peut-être que Gilles Kepel, qui est avec nous et qui nous fait le bonheur de cette conversation passionnante, va trouver, cher Fabrice, dans les actualités du Grand Orient, de quoi meubler certaines de ces soirées encore vides du mois d'octobre.
Gilles Kepel et bien d'autres. L'agenda du mois d'octobre, effectivement, s'inscrit dans les questions les plus actuelles de la société française. L'école. D'abord, avec une conférence publique dans le cadre de Chantier de la République qui a pour titre « Les inégalités scolaires ». Avec comme deux invités, Yannick Trigance, inspecteur de l'éducation nationale et conseiller régional, et Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. Jean-Paul Delahaye, c'est l'auteur du livre « Exception consolante, un grain de pauvre dans la machine ». Et c'est précisément dans ce livre que Delahaye souligne les écueils de l'école en matière de justice sociale et de prise en compte de la pauvreté. Il s'agira là du principal sujet de la conférence. Nous sommes donc le 24 octobre à l'hôtel Cadet à 19h30. Deux jours après, le 26 à 14h, un colloque sur l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle après le silex et le feu, la deuxième rupture. Toujours à l'hôtel Cadet, trois invités cette fois, Frédéric Josué de Sciences Po et de la Sorbonne, Gontran Pebez de Dauphine et Fabrice Epelboin, qu'on ne présente plus, de Sciences Po. Alexis, ensuite, nous en parlions le mois dernier. C'est donc le 8 octobre que Nicolas Pénin, grand maître du Grand Orient de France, recevra huit associations de résistance iranienne, parmi lesquelles Nowruz, Iran Justice, Azadi for Iran. Résistance, je le précise, au régime des Mollahs, bien entendu. Je rappelle le contexte. Le 16 septembre dernier étaient commémorés les 2 ans de l'assassinat de Jina Mahsa Amini par les gardiens de la Révolution. Je voudrais terminer et revenir sur Nowruz. J'invite chacun à consulter le site de Nowruz, nowruz.org, N-O-R-O-U-Z, Association pour une nouvelle ère en Iran. Dans la rubrique Actualité, et en choisissant le média France Info, on découvre une vidéo revenant en détail sur, par exemple, l'activité d'une association soutenant les victimes du régime de la République d'Iran. C'est donc sur nowruz.org et c'est édifiant.
Merci beaucoup, cher Fabrice, pour ces actualités passionnantes. Alors, il nous reste 30 secondes, Gilles Kepel. On est ensemble au bouleversement du monde aux éditions Plomb. On peut encore être raisonnablement optimiste ?
Toujours, sinon on n'a plus qu'à mourir. Moi, j'ai essayé toute ma vie d'être un optimiste à qui on ne la faisait pas. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi, mais j'ai persisté dans mon être.
Et qu'est-ce que vous souhaitez le plus ardemment, alors justement, pour cette région du monde que vous connaissez mieux que quiconque comme arabisant ?
Ah bah, la paix, bien sûr, et la prospérité, mais c'est plus vite dit que fait, et ça implique une profonde révolution culturelle qui passe probablement par une mise à distance de religieux dans sa dimension la plus rigoriste.
Je recommande chaleureusement, après cette conversation passionnante, Le bouleversement du monde. Nous l'avons lu avec Fabrice. C'est un grand livre du moment présent pour tout comprendre, en réalité, de ce qui arrive à cette région du monde à laquelle tant de maçons sont attachés. On vous remercie chaleureusement, Gilles Kepel.
Merci de votre invitation.
C'était divers aspects de la pensée contemporaine, à la technique Alex Dang, à la réalisation l'indispensable Jean-Christophe Francis, et puis à la préparation éditoriale Claire Poinsignon. Un très bon dimanche à tous, et au mois prochain naturellement. Au revoir Fabrice.
Au revoir Alexis.